Délivrez-vous, une émission de Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
Bonjour à toutes et tous. Eh bien, je vous propose aujourd'hui comme lecture un roman, je dirais, autobiographique d'un auteur que j'aime beaucoup. Je dirais que c'est un grand monsieur avec beaucoup de qualité, de talent, une belle écriture. Sans doute, peut-être, avait voulu sa saga sur trois livres précédents. Là, il va nous raconter une période de notre histoire, de son histoire, qui n'en finit pas de faire couler de l'encre et qui est aujourd'hui un passé douloureux, mais qui est aussi un présent douloureux parce que tout n'est pas réglé. Alors, il va nous raconter l'Algérie, son Algérie, et j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Maurice de Carvet-Noël. Bonjour, Monsieur de Maurice de Carvet-Noël.
Oui, bonjour, c'est gentil de m'accueillir.
Eh bien, je vous en prie, pour votre dernier livre, je disais, c'était presque une autobiographie aux éditions de l'Archipel. Voilà, j'ai oublié le titre, c'est des choses comme ça. Ce sont les braises du souvenir aux éditions de l'Archipel. Alors, je disais, pour ceux qui sont des lecteurs avertis et les autres, bien évidemment, vous nous avez déjà régalé avec trois livres précédents. Et là, c'est un livre, je dirais, peut-être plus intimiste, plus délicat aussi, je l'ai trouvé aussi assez, assez tendre également. Alors, bien sûr, il y a les personnages, mais c'est aussi votre histoire. On va commencer bien sûr avec l'auteur, Philippe. Philippe, voilà, qui est le héros principal. Au travers de son histoire, nous sommes en 1961 en Algérie. Alors, au travers de ce livre, moi j'ai senti, je vous le disais, une douleur, une tendresse. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons tout réglé avec l'Algérie ou pas?
Je dirais pas du tout. Ce qui est un peu triste, c'est que l'Algérie est un merveilleux pays bourré de richesses, richesses économiques, richesses humaines, parce que c'est des populations intelligentes et autres. Et que ce pays ne s'en sort pas et que vis-à-vis de la France, il continue à avoir les yeux fixés dans le rétroviseur, alors qu'on devrait pouvoir se développer ensemble vers l'avenir et qu'ils ne réussissent pas à digérer le passé, qui est peut-être d'ailleurs un alibi pour eux, pour effacer leurs difficultés présentes.
Alors Philippe va se confronter bien sûr aux difficultés présentes entre les Félagas et les Harkis. Ça va être assez compliqué pour lui. Il va rompre avec sa fiancée, il va rencontrer une autre femme, Laure. Il va y avoir aussi cette bataille avec le FLN, son ami d'enfance aussi qui va s'engager. Donc toute une période, dirais-je, difficile, troublée et troublante. Au travers de ce personnage, c'est aussi notre histoire de France qui défile dans ce livre.
Tout à fait, si vous voulez. Moi, je suis parti en Algérie et j'étais très convaincu que l'indépendance était inéluctable. Donc, je n'étais pas Algérie française. J'étais convaincu que cette région prise entre le Maroc indépendant, la Tunisie indépendante, je ne voyais pas comment on pourrait refuser à ce pays l'indépendance. Mais mon rêve, parce que je connaissais ce pays, c'était de faire le Liban, c'est-à-dire une Algérie indépendante où auraient pu coexister les Arabes, les Berbères, les Juifs, les Mozabites, les Pieds-Noirs, etc. Et ça aurait été un pays d'une très grande richesse, d'une très grande diversité. Et donc, moi je me suis engagé là-dessus et battu là-dessus, c'est-à-dire que je pensais qu'il fallait gagner sur le terrain pour pouvoir, avec l'armée française, imposer une sortie, je dirais, par le haut. Malheureusement, c'est pas ce qui s'est passé. On a gagné la guerre sur le terrain et on l'a perdu politiquement et on est vraiment très très mal parti. Alors, ça, c'était mon positionnement personnel. Dans ce roman, il y a un deuxième héros qui est Roland.
Roland, oui.
Qui est l'ami de Philippe.
L'ami de Philippe. Oui.
Lui, et j'ai connu, je dirais, un ami proche auquel Roland ressemble beaucoup, et Roland va basculer dans l'OAS parce que il considéra que c'est une question d'honneur, qu'il s'est engagé vis-à-vis de ses harkis, engagé vis-à-vis des pieds noirs, et qu'on ne peut pas laisser aux félagas et à leur barbarie ce pays. Et puis alors, l'ami de cœur de Philippe, qui, elle, représente la communauté pieds noirs. Et donc, au travers de ces trois personnages, Philippe, Roland et Laure, ça me permet d'exposer de façon charnelle, si je puis dire, ce qu'ont été les positions des uns et des autres et qui ont été quelque chose d'assez déchirant.
Oui. Alors, il sait qu'il ne va pas pouvoir rentrer tout de suite chez lui. Il se rend compte qu'il va falloir rester plus longtemps dans ce pays et choisir ses combats d'une certaine manière. Est-ce que les soldats qui étaient sur place pouvaient choisir, avaient le choix et certains ont fait le choix de rester justement pour aider les ou la population?
Je dirais pratiquement pas. C'est-à-dire que l'armée est très vite partie. Et moi, dans mon cas, donc, j'ai commencé d'abord comme simple soldat, puis après un passage à Saumur pour être fait officier, j'ai eu une harka, c'est-à-dire une unité de supplétifs qu'on appelait des harkis.
Ouais.
Et comme ça a bien marché, j'ai eu ensuite un commandement de quelqu'un de beaucoup plus vieux. J'ai eu 108 hommes sous mes ordres qui étaient pratiquement un commandement de capitaine. Bon. Et presque immédiatement après les accords d'Évian, donc ouais. Le cessez-le-feu qui a eu lieu au mois de mars, dès fin avril, 1er mai, mon commando a été dissous et on m'a pas demandé mon avis. J'ai été réexpédié en France dans une unité de cavalerie à Périgueux. Donc, il y a pratiquement pas de militaires qui sont restés ou ont pu rester.
Pensez-vous que d'une certaine façon, c'est même pas d'une certaine façon, avec une certitude, qu'on a laissé tomber les harkis et aujourd'hui, quand il y a ces mémoires, cette reconnaissance, elle est venue trop tardive. Est-ce que justement, cette reconnaissance tardive, en disant voilà, eh bien, on vous présente des excuses, une sorte de regret, est-ce que malgré tout, comme c'est trop tard, est-ce que cela ne continue pas d'attiser les braises du souvenir, justement?
Alors, si vous voulez, d'abord, je reviens une minute en arrière historiquement.
Mmh.
Il faut savoir donc qu'aujourd'hui, la plupart des historiens sont d'accord pour dire que les harkis qui ne sont pas rentrés en France ont été massacrés.
Oui.
Et on estime à quelque chose entre 70 000 et 80 000 morts, ce qui est considérable.
C'est considérable.
Pour vous donner un ordre de grandeur dans la mémoire douloureuse de la France, la Saint-Barthélemy, moi j'ai une femme protestante, qui
oui.
est quelque chose qui a beaucoup marqué les protestants, ça se situe à Paris entre 3000 et 5000 personnes.
Mmh.
Vous voyez l'ordre de grandeur.
Tout à fait.
La Libération, c'est de l'ordre de maximum 10 000 personnes à Paris.
Mmh.
Donc là, on parle de 70 000 à 80 000 personnes qui ont été massacrées, torturées, massacrées. Et massacrées de sang-froid, puisque... rapporté par Perfit lui-même, de Gaulle déclarait, je crois que c'est début avril, les harkis, il faut se débarrasser de ce magma qui ne sert à rien.
Mmh.
Donc c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. Et je pense, alors ensuite, les harkis, il y a ceux qui, comme les miens, ont eu la chance d'être amenés contre les pouvoirs publics français et qui ont été accompagnés. Et donc moi, ça a été plutôt une réussite dans la mesure où on a réussi à leur trouver du travail, à les insérer et à les intégrer. Mais l'immense majorité des harkis ont été mis dans d'horribles camps qui s'appelaient Rivesaltes.
Oui.
Rivesaltes, c'était un camp où, sous Pétain, on enfermait les Juifs. À la Libération, on a enfermé les collaborateurs. Après ça, on enfermait le FLN. Et quand arrivent les harkis, on les a mis dans ces camps, dans des conditions épouvantables. Donc, quelque part, ces gens-là ont une très grande amertume. Et puis derrière, leurs enfants s'intègrent mal. Ils savent pas très bien comment se situer. Vis-à-vis des autres Algériens, ce sont des enfants de collaborateurs. Et en France, ce sont des Arabes pas très bien intégrés.
Oui.
Donc c'est un problème qui est douloureux. Alors, la reconnaissance, c'est quelque chose de bien. Moi, je milite dans une association où on essaye d'aider les enfants de harkis à trouver du travail et à s'intégrer. Je crois que c'est ce qui serait le plus important sur le plan de l'avenir, vous voyez.
Oui. Alors, votre héros, Philippe Marion, je trouve que c'est un trait d'union intéressant et assez emblématique entre le passé et le présent. Ces braises du souvenir, bien évidemment, toujours rougeoyantes. Mais malgré tout, il a cet optimisme un petit peu chevillé au corps. Il est combatif et persuadé malgré tout que le combat peut avoir des conséquences positives. Moi, je l'ai trouvé assez courageux et très brave.
Ben, si vous voulez, d'abord, ce titre, Les braises du souvenir, le mot braise, il m'est venu d'une phrase qui est de Bismarck,
oui,
qui disait « Soufflez sur les braises du passé pour éclairer l'avenir ».
Mmh.
Et je pense que si aujourd'hui on comprend mieux ce qui s'est passé en Algérie, ben, ça éclaire quand même d'une certaine façon le comportement de beaucoup de gens. Je pense que l'armée aujourd'hui est extrêmement marquée encore par le souvenir de l'Algérie, par la désillusion qu'ils ont eue, ce sentiment d'avoir gagné une guerre que les politiques leur ont fait perdre.
Oui.
Beaucoup d'officiers, je ne citerai pas de nom, mais des chefs d'état-major de l'armée française, leurs pères ont été en prison au moment du putsch. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, qui n'est pas encore très bien digéré. Et moi, j'ai voulu que mon héros soit quand même quelqu'un de positif.
Tout à fait.
Il a fait la guerre, il se bat pour ses idées. Ça n'est pas un factieux, c'est pas un homme d'extrême droite, c'est un homme modéré,
oui,
et qui rêve d'essayer d'aider à accoucher une Algérie moderne et fraternelle.
C'est un peu ce que souhaite votre livre, nous emmener justement vers cette Algérie moderne et nous réconcilier aussi avec cela.
Alors, oui, c'est ce que j'essaierai de faire dans le deuxième tome qui suivra.
Bon, eh ben écoutez, c'est une bonne nouvelle. On sait qu'on vous retrouvera dans quelques mois. En attendant, eh bien, nous allons faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Merci.
Thank you.
retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Monsieur Maurice de Kervanoël pour son livre Les Braises du Souvenir aux éditions de l'Archipel. Alors, vous nous aviez dit avant la petite coupure qu'il y aurait un tome 2, donc j'imagine effectivement qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais pour vous, personnellement, intimement, oserais-je dire, c'était important de raconter ce passage de notre vie, de votre vie, de notre histoire d'aujourd'hui, parce que, comme vous le disiez, rien finalement n'est encore résolu. On est peut-être moins fâché avec l'Algérie, mais il y a encore beaucoup de choses à dire et à régler. C'était important de dénoncer ces choses-là au travers de Philippe Marion.
Alors, si vous voulez, d'abord, sur un problème plus personnel, ce livre a un peu eu pour moi une fonction de psychanalyse. C'est-à-dire, c'est des souvenirs qui étaient très forts et je les ai écrits avec mes tripes. Parce que quand vous avez été comme moi dans la montagne, dans l'Orsoigny, sur un piton, avec une centaine d'hommes sous vos ordres, un village de 2000 habitants, et dans ce village, ben, vous rendiez la justice, soignez les gens. J'avais 90 personnes toujours dans mon dispensaire, des enfants qu'on scolarisait. Moi, je m'y suis énormément investi et quand on a dû partir brutalement, moi, j'ai eu la chance, puis la volonté d'essayer de sauver les harkis parce que j'ai eu l'armée, on leur avait promis dans les accords d'Évian qu'ils pourraient être engagés dans l'armée française et quand le médecin est venu pour examiner ceux qu'on pourrait engager, sur mes 108 hommes, il y avait 78 musulmans, il y en a deux qui ont été reconnus bons pour le service. Mmh. Alors j'étais horrifié, et le médecin m'a dit, mais mon pauvre Kervanoël, si je laisse passer davantage de harkis, ils seront bloqués au-dessus, nous ne voulons plus de musulmans dans l'armée française, d'Algériens, nous voulons bâtir une armée moderne. Et donc, on a sciemment envoyé ces gens à la mort. Donc,
oui.
Moi, c'est ce que je raconterai dans le tome suivant. J'ai réuni mes harkis et je leur ai dit, écoutez, vous pourrez dire que De Gaulle vous a lâché, mais vous ne direz pas que la France et votre lieutenant vous a lâché. Ceux qui veulent rentrer vont rentrer. Je les ramènerai, j'essaierai de vous trouver du travail. Et donc, au total, j'ai pu en ramener une quarantaine, mais tous les autres ont espéré pouvoir rester, ont été égorgés. Donc, si vous voulez, c'est des souvenirs qui sont à la fois exaltants, parce que j'ai eu des heures passionnantes, je vous dis, où on s'est investi, c'était de l'humanitaire avant l'heure, et en même temps, douloureux, parce que moi je pense à tous ces gens avec qui j'étais lié. Vous savez, il y a une camaraderie de combat, on est là, on se risque, on dort à la belle étoile serrés les uns contre les autres, il y a le combat, il y a la peur, il y a la joie de gagner, et puis d'un seul coup vous partez, et vous partez en sachant que vous abandonnez à la torture et à la mort, ces gens avec qui vous y étiez, donc c'est quand même assez traumatisant. Alors, j'ai voulu témoigner de ça, et puis je pense que on ne bâtit bien l'avenir que quand on exorcise
le passé.
Et je pense qu'il y a eu une omerta. Moi, ça me frappe, on me demande des conférences et sur l'Algérie, et très souvent, fin de ces conférences, il y a des gens qui viennent me voir. Je me rappelle une conférence que j'ai faite il y a 6 mois devant une centaine de femmes d'affaires. Et plusieurs femmes sont venues me voir en me disant, écoutez, on est passionnés parce que mon père a fait la guerre, mon grand-père, mon oncle, mon frère aîné, et personne n'en parle. Il y a un peu comme une omerta sur le sujet. Et je pense que si on veut vider notre contentieux historique, ben, il vaut mieux regarder la réalité en face de ce qui s'est passé. Et ça permettra peut-être à terme de bâtir une relation plus saine avec l'Algérie, et j'espère qu'un jour l'Algérie aura le courage de faire le même travail.
Il faut l'espérer, oui, parce que ça ne peut marcher que dans les deux sens, la réconciliation définitive, hein, bien évidemment.
Et qu'ils ne se disent pas qu'on a été uniquement des colonisateurs. Oui. C'est Ferhat Abbas, qui était un grand chef indépendant, a dit cette phrase qui était une phrase clé. Il a dit, la France n'a pas colonisé l'Algérie, elle l'a créée.
Oui.
Et je pense que c'est une phrase profonde.
Tout à fait.
Et le jour où ils auront compris bon, qu'il y a eu la guerre, qu'ils se sont bien battus, et je reconnais leur combat pour avoir leur indépendance, mais que le passé de la France n'a pas été négatif, qu'on aura d'un pays qui était dans un état dramatique, on a fait un vrai pays avec des écoles, des hôpitaux, des routes.
Une structure,
c'est ça. À ce moment-là, on pourra bâtir l'avenir.
Tout à fait. Le rapport en tant que
que militaire et chef de et responsable sur place. Le rapport avec les autorités dirigeantes, avec le gouvernement et avec De Gaulle, est-ce qu'il y avait un lien ou est-ce que c'était advienne que pourra? Il y en a qui étaient controversés, hein, certains chefs militaires ou au niveau du gouvernement, des responsables politiques. Comment se passait le lien?
Alors, sur le terrain, il n'y avait pas de lien, si vous voulez. Un sous-lieutenant comme moi appelait, on était isolé sur un piton en pleine montagne. Mmh. Moi, j'avais un chef qui était un capitaine que je voyais de temps en temps. Lui devait recevoir des ordres de son colonel, mais on était extrêmement autonome et isolé. Il n'y avait aucun contact avec les politiques.
Oui. Donc, Donc les ordres ne vous arrivaient pas directement?
Non, ils redescendaient par la hiérarchie, mais... nous, on était autonomes et on menait... Si vous voulez, moi, j'ai fait une guerre qui était un peu atypique, puisque dans mon coin, il n'y avait pratiquement pas de pieds noirs, et c'était une guerre un peu tribale entre des Felagas et des Harkis qui venaient du même village, qui souvent avaient entre eux des haines recuites qui étaient au-delà de l'idéologie. Il y avait l'idéologie, les indépendantistes, et puis ceux qui croyaient que l'avenir devait se faire avec la France... Mais au-delà de cette idéologie, il y avait des haines de famille à famille, il y avait des rancœurs,
il y avait des clans,
de
c'était clanique.
Et donc c'était une guerre assez tribale et c'est pour ça que c'était passionnant.
Oui. Alors, vous disiez pas franchement de rapport, mais est-ce que par rapport à des chefs militaires, certains se sont arc-boutés contre le pouvoir et contre les décisions faites en haut lieu?
Alors ça absolument, si vous voulez, ça a été le putsch, ça a été l'OAS, c'est-à-dire... Voilà. C'est le cas de mon héros Roland, c'est-à-dire que on n'avait pas, je dirais, d'instruction directe avec le pouvoir politique, mais via la radio et via ce qui se passait, on apprenait petit à petit que d'un De Gaulle qui avait dit d'abord « je vous ai compris, vive l'Algérie française », puis il a parlé de l'autodétermination, puis de l'indépendance possible. Bon, alors, quelqu'un comme moi qui était légaliste, moi, je considérais que j'étais officier, militaire, et que, quels que soient mes états d'âme, j'étais là pour appliquer la politique fixée par un gouvernement démocratiquement élu. Oui. Mais il y a un certain nombre d'officiers, dont mon héros Roland, qui se sont sentis totalement trahis. Et qui avaient le sentiment... que De Gaulle était à la fois un parjure et en même temps un homme qui était en train de brader des départements français.
Alors justement, vous apportez un peu de l'eau à mon moulin. On a eu le sentiment que le gouvernement a un petit peu lâché les harkis, lâché les soldats français. Est-ce qu'à ce moment-là, De Gaulle aurait dû prendre d'autres décisions?
Alors... Si vous voulez, moi je ne veux pas faire de politique, ma position, on ne peut pas s'empêcher d'en faire, ma position à moi est extrêmement claire. Je pense que De Gaulle a été un visionnaire et qu'il a eu totalement raison de vouloir l'indépendance de l'Algérie et de vouloir qu'on en parte. Parce que imaginez aujourd'hui que l'Algérie française ait réussi, c'était un leurre, et la France de Dunkerque à Tamanrasset, vous imaginez avec tout le problème... De la radicalisation du monde islamique, les problèmes que ça poserait.
Il y en a déjà assez comme ça. Il y en a déjà assez comme ça.
Voilà, donc ce serait un truc... Donc De Gaulle a été visionnaire. Par contre, ce qui a été dramatiquement mal géré, et là je pense qu'il est très coupable et qu'il restera coupable aux yeux de l'histoire, c'est la façon dont on est parti. C'est-à-dire qu'on avait totalement gagné la guerre sur le terrain. Il y avait moins de morts les derniers mois en Algérie que d'accidents de circulation en France. Donc on était complètement maître du terrain et donc on aurait pu se retirer progressivement. Simplement, De Gaulle avait une obsession, c'était le grand jeu international. Il voulait que la France rebascule dans le concert des nations avec une armée moderne et pouvoir faire entendre sa voix. Et donc, il a voulu partir. Et ce qui est dramatique, c'est que si les accords d'Évian signés, bon, qui n'étaient pas parfaits, mais avaient été appliqués, l'histoire aurait été totalement différente, puisque les accords d'Évian prévoyaient que personne ne pouvait être inquiété pour ses opinions passées, les biens des pieds noirs devaient être respectés, les harkis ne devaient pas être inquiétés. Et donc, l'armée était en place, on était maître du terrain, on aurait pu imposer l'application des accords d'Évian. Mmh. Or, le lendemain des accords d'Évian, il est apparu tout de suite et très vite des exactions du FLN, des massacres de harkis, des enlèvements de pieds noirs, des spoliations et interdiction de bouger. On est resté dans nos casernes et on a assisté passif à une dégradation, à une espèce de dilution du pouvoir et de l'autorité qui s'est traduit par ce drame. Mmh. Alors ensuite de ça, un certain nombre d'officiers dont je suis, on a voulu sauver nos troupes et ça a été totalement interdit par le gouvernement. De Gaulle ne voulait pas que ça sache que c'était un désastre et on a refoulé des harkis. Moi, j'ai eu une chance énorme parce que j'ai ramené des harkis qui étaient encore des citoyens français puisque je les ai ramenés au mois de mai, fin avril, début mai, alors que l'indépendance est intervenue en juillet. Donc je m'étais mis en civil, j'étais un civil en permission ramenant des citoyens français en métropole et j'ai commencé à être inquiété par les renseignements généraux. Oui. La chance a voulu que par relation, je connaissais un homme qui s'appelait le Bachaga Boualem, qui était un chef de tribu arabe et qui était vice-président de l'Assemblée nationale. Ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est qu'il y avait donc un arabe qui était le numéro 2 de la Chambre. Et il a fait une intervention à la Chambre en disant « Est-il vrai qu'un sous-lieutenant Maurice de Kervenoël, agissant à titre civil et ramenant des Français, est inquiété ?» Alors à ce moment-là, il y a eu un article dans Le Monde sur moi, un grand article qui faisait un quart de page, et j'ai immédiatement vu s'arrêter les démarches des renseignements généraux et on m'a laissé tranquille. Mais donc moi j'ai réussi à avoir cet appui, mais il y a plein d'officiers qui ont été mis aux arrêts et il y a des harkis qui ont été refoulés alors qu'on savait que les refoulants, on les envoyait au couteau des égorgeurs du FLN. Mmh.
Alors aujourd'hui, et ce sera notre conclusion malheureusement, vous parliez tout à l'heure d'examen de conscience que la France serait prête à faire et qu'il faudrait faire. Est-ce que de l'autre côté, en tâtant le pouls de l'Algérie, est-ce qu'il serait prêt à le faire? Est-ce que cette réconciliation, enfin, est-ce que ce chemin, nous sommes prêts à marcher les uns vers les autres aujourd'hui? Ou il y a encore beaucoup de choses à faire?
Écoutez, moi j'ai des amis hommes d'affaires qui ont eu l'occasion, pour le boulot, d'aller en Algérie et de rencontrer des instances haut placées. L'accueil des anciens pieds noirs et autres est très chaleureux. Et moi, je rencontre souvent en France des Algériens venus, c'est très chaleureux. Je pense que le problème aujourd'hui est la classe dirigeante politique qui utilise le passé, je dirais, de la résistance, de la lutte de l'indépendance, comme un outil politique. Et je pense que tôt ou tard, les choses se dénoueront et je crois qu'il faut être optimiste. Oui. L'Algérie, c'est un grand pays. Moi, j'ai rencontré des Algériens, y compris haut placés aujourd'hui, qui sont des gens d'une très grande qualité. Il faut faire le pari que ces différends qui sont purement politiques s'effaceront et que les deux peuples pourront à la fois regarder leur passé, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est utilisant les points communs que nous avons, la langue, une forme de culture et autres, on peut jouer un véritable rôle en Méditerranée. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut parier.
Bien, écoutez, j'espère que cette profession de foi, dirais-je, sera entendue. En tout cas, je conseille à tout à chacun de lire votre livre, Les Braises du Souvenir, aux éditions de l'Archipel. On attendra avec impatience le tome 2 qui sera courant 2019.
Qui sera fin 2019.
D'accord.
Je voudrais juste rajouter une petite chose.
Prie.
Il ne faudrait pas que vos lecteurs pensent que ce roman est uniquement un roman militaire et politique.
Non, parce qu'il y a aussi de l'amour dans votre roman.
Voilà, il y a de l'amitié, il y a de l'amour.
Il y a
une dimension humaine.
Tout à fait.
Parce qu'on faisait la guerre, mais en même temps, on était des hommes.
Bien sûr, des hommes et des femmes. Donc il y a aussi de l'amour, de l'amitié, de la tendresse, un peu d'humour aussi parfois. Mais sur un sujet grave, on sait aussi parfois donner le meilleur de l'homme et de l'humain. En tout cas, il faut l'espérer.
Absolument.
En tout cas, Les Braises du Souvenir aux éditions de l'Archipel de Maurice de Kervenoël. C'était un vrai plaisir de nouveau de vous recevoir. Je vous dis
moi aussi.
Rendez-vous à dans quelques mois.
Merci.
Merci de votre fidélité.
Et merci de m'avoir ainsi gentiment reçu. Bonne journée.
Merci.